au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour. Heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Académie à l'Institut de France pour un nouveau Au fil des pages qui nous donne le plaisir d'accueillir Anne Salmon. Anne Salmon, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de faire paraître chez CNRS Les Nouveaux Empires, fin de la démocratie. Un ouvrage qui s'inscrit dans une forme de continuité puisque votre précédent ouvrage avait pour titre « Moraliser le capitalisme ». Donc vous revenez globalement sur ce sujet en entrant, on va dire, par un autre biais, celui des nouveaux empires. Alors, avant de rentrer sur ce sujet, quelque peu angoissant, puisque le second sous-titre est « Fin de la démocratie », je voudrais rappeler que vous êtes professeur de sociologie à l'université Paul Verlaine-Metz et que vous êtes donc professeur d'université et un auteur régulier. Je crois que vous êtes à votre cinquième parution et vous faites de nombreuses chroniques. Alors, venons maintenant directement dans cette dernière parution, les nouveaux empires. Il faudrait peut-être déjà commencer à les définir. C'est qui ces nouveaux empires ?
Alors, je voudrais juste préciser que pour les deux titres, que ce soit Moraliser le capitalisme ou Les nouveaux empires, fin de la démocratie, il y a un point d'interrogation. Alors, les auditeurs ne peuvent pas entendre, mais qui est quand même très
absolument,
important.
Absolument.
Il ne s'agit pas de penser que les tensions entre capitalisme et démocratie aujourd'hui qu'on ressent à travers ce surcroît de pouvoir des grandes entreprises ou des fonds spéculatifs aboutirait à une déchéance inéluctable de la démocratie. Je crois qu'il y a des sources d'espoir que j'ai essayé en tous les cas de mettre en évidence, notamment dans la deuxième partie. Alors certes, il y a des problèmes. On a bien le sentiment qu'aujourd'hui, les empires financiers ont un pouvoir extraordinairement important par rapport aux États-nations, qui ont des difficultés, notamment dans le cadre de la mondialisation. Je crois qu'il faut insister, mais on en reparlera, je crois qu'il faut aussi insister sur les effets à l'intérieur du travail du nouveau management qui fragilise cette fois-ci la puissance sociale. Mais en aucun cas, je ne crois que les processus sont inéluctables, source de désespoir. Et au contraire, j'ai essayé, tant que faire se peut, de montrer des pistes.
D'accord. Alors, ces nouveaux empires, donc on comprend bien, c'est ce pouvoir économique qui se substitue progressivement à celui des États-nations. Et cette évolution, cette dérive, on peut dire, à quelque part, a bien entendu des conséquences sur les relations du travail. Et donc, ce qui est original dans votre dernière parution, me semble-t-il, c'est que vous complétez votre réflexion théorique par des enquêtes approfondies dans les entreprises. C'est-à-dire que sur le terrain, vous êtes allé voir un petit peu comment les salariés ressentaient dans leur chair, je vais dire, ou dans leur relation quotidienne, ce poids du management sur leur relation de travail et sur la façon dont ils ont à souffrir ou non et à subir du stress.
Oui, alors peut-être que vous me permettez d'indiquer finalement les liens entre Moraliser le capitalisme, point d'interrogation, et puis cet ouvrage-là. Dans Moraliser le capitalisme, ou bien dans La tentation éthique du capitalisme, j'ai à la fois travaillé autour du discours éthique des entreprises et puis autour de la réception de ce discours par les salariés. Ce que j'ai fait ensuite, c'est que je me suis dit, bon ben voilà, on a une difficulté, est-ce que de la place du travail et de la place même des luttes sociales, il y a une éthique qui soit susceptible de rentrer en tension, en conflit avec le discours managérial tel qu'il s'impose aujourd'hui dans les entreprises auprès des salariés. J'ai fait une enquête assez large dans le secteur des IEG, c'est-à-dire les industries électriques et gazières, en travaillant sur 5 entreprises, le thermique, le nucléaire, l'hydraulique. Donc 5 entreprises, et dans lesquels j'ai cherché dans les entretiens, donc ça fait des entretiens, c'est environ 120 entretiens,
alors pourquoi
qui est la base de ce travail. J'ai recherché finalement si émergeaient des valeurs éthiques structurantes qui soient susceptibles de rentrer justement en dialogue, même en tension. Et là, j'ai eu une énorme difficulté, c'est-à-dire que je m'attendais à trouver des valeurs comme par exemple la solidarité, comme l'émancipation, comme la dignité. Et dans cette, c'est plus de 2000 pages d'entretien, il y avait, non pas, je ne veux pas dire qu'il n'y avait pas de valeurs, mais on n'avait pas l'impression que c'était des valeurs extrêmement fortes et extrêmement structurantes. Donc, il a fallu que je reprenne tout à zéro. Tout à zéro, parce que je pense que la problématique que j'avais choisie n'avait pas une valeur heuristique suffisamment pertinente pour pouvoir continuer et avancer dans ce sens. Je me suis enfermée avec mes 2000 pages, ce que j'appelle la stratégie du grand enfermement, dans un coin absolument isolé et avec une lecture extrêmement serrée des entretiens. Et là, je me suis rendu compte qu'en repartant vraiment...
Oui, de ce que vous aviez collecté.
Tout à zéro, plus autour des pratiques et du travail. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait à la fois deux choses qui émergeaient. Il y avait des pratiques syndicales très importantes. En fait, très importantes, on va dire plutôt très structurantes pour les équipes qui les pratiquaient, qui allaient dans le sens d'une démocratisation des pratiques syndicales. Il ne s'agissait pas de parler encore ou de parler encore de démocratisation de l'économie, mais des équipes syndicales qui entendaient promouvoir une démocratisation de leurs pratiques à travers à la fois des processus de consultation des salariés et puis à travers un syndicalisme de proximité. Donc ça, ça m'a paru extrêmement intéressant. Et puis la deuxième chose qui m'a paru extrêmement intéressante, c'était le sentiment chez les salariés d'une sorte de blocage, d'une impossibilité, d'une parole collective forte qui puisse être entendue par les directions. Et c'est ensuite, en partant de ces éléments-là, donc extrêmement empiriques, que j'ai essayé de construire ma réflexion plus large autour de ces tensions entre capitalisme et démocratie, à la fois d'un point de vue macro, sur lequel je n'insiste pas dans le livre parce que c'est fort connu, mais d'un point de vue micro, en essayant de creuser davantage, d'où le travail empirique avec de longs extraits d'entretien.
Oui, alors, vous l'indiquez à plusieurs chapitres, le management fragilise le collectif de travail et affaiblit les contre-pouvoirs. Les tensions entre capitalisme et démocratie s'expriment dans l'entreprise et fragilisent les contestations internes. Alors, ce que vous êtes en train de dire, de surcroît, c'est que les représentants des salariés eux-mêmes ont pris conscience de cette évolution, on va dire, de la relation de travail et eux-mêmes sont remis en cause, en quelque sorte, dans leur propre pratique, si j'ai bien compris.
Oui, je pense.
Enfin,
oui,
en tout cas, partiellement. Enfin, en tout
oui,
cas,
absolument.
Ce que vous
avez pu mesurer. Alors, c'est une tendance. C'est une tendance qui est aujourd'hui nette dans certaines équipes syndicales, mais c'est une tendance qui est ténue, qui peut tout à fait ne pas se diffuser ou avorter. Il me semble, moi, qu'elle est très importante et très intéressante dans la mesure où elle va articuler à la fois les tendances à l'individualisation dans le travail, mais en même temps la possibilité et la capacité d'une traduction collective de cette parole. C'est-à-dire qu'il y a une articulation à travers la consultation, il y a une articulation entre l'individualisation dans le travail, l'individualisation de la parole, mais une articulation avec aussi une parole collective qui peut s'agréger. La difficulté, c'est l'agrégation, au fond. Et cette difficulté d'agrégation est source d'un profond désespoir qu'il s'agit, me semble-t-il, d'endiguer absolument.
Alors, c'est ce que vous dites, les conséquences de ce management qui a tendance à isoler sont lourdes et il y a effectivement une souffrance au travail qui s'exprime, on le voit dans l'actualité sous diverses formes, certains grands groupes internationaux en ont été l'illustration, hélas par des drames humains. Et par contre, ce que vous précisez, et je pense que c'est une évidence, c'est que cette souffrance au travail, elle n'est probablement pas plus intense que ce que ce connaissait le conducteur de locomotive au charbon ou l'ouvrier métallurgique il y a 70 ans. Cela étant, elle a des conséquences, donc ce n'est pas la même intensité, mais les effets sont tout aussi désastreux.
Je crois qu'il y a cette souffrance au travail sur laquelle on insiste à juste titre est différente, peut-être pas plus forte. Il est évident que, bon, pour prendre un exemple extrêmement évident, un enfant qui travaille dans une mine à 3 ans ou à 5 ans, il est bien évident qu'il était en souffrance. Les mineurs étaient dans une immense souffrance. Donc je crois que ce n'est pas contestable. Par contre, ce qui change aujourd'hui, c'est que le management et même l'organisation et la déstructuration des entreprises fait que cette souffrance n'arrive plus à s'agréger dans une parole collective et même une identité collective, que ce soit par exemple l'identité ouvrière, qui permettait au fond une expression collective de cette souffrance et une dignité dans l'expression collective de cette souffrance. À partir du moment où cette souffrance colle à l'individu, il est bien évident qu'on va avoir de graves problèmes, notamment, je pense aussi, des problèmes de métamorphose de cette souffrance en violence, qui accentue le problème et qui risque d'aboutir à une impasse.
Oui, parce que ce que vous dites, c'est un des faits marquants, c'est que cette souffrance ne peut pas être socialisée, en quelque sorte. C'est le terme que vous employez. Et effectivement, on comprend cette difficulté de, en quelque sorte, le partage limiter à quelque part la souffrance, si je comprends bien.
Oui, il y a cette difficulté de socialisation, si bien que qui est liée à un éclatement des collectifs de travail qui va aboutir à un éclatement des collectifs de lutte et qui va finalement être accentué justement par cette désorganisation de la puissance sociale qui tourne à vide.
Je vous lis page 159. Les organisations se transforment ainsi en machines à exclure. Pour s'y sentir intégrées, il faudrait accepter d'y être reconnues selon les critères précis du modèle de performance qui entend s'établir dans tous les contextes de travail. Or, pour nombre de salariés, ces critères n'ont pas de sens et s'ils veulent être reconnus, tous ne souhaitent pas l'être comme cela. Alors, ils pourraient être reconnus comment, alors, autrement que comme cela?
Alors là, je pense qu'il faudrait repenser complètement les formes d'évaluation qui sont extrêmement individualisantes. Mais il me semble que le chapitre, cet extrait que vous citez...
C'est même dans la conclusion. C'est même dans la conclusion.
Ah, d'accord. Alors, je voudrais ajouter sur le plan de la déstructuration ou de l'impuissance sociale, il me semble qu'à la fois, elle est liée à cette dislocation des collectifs de travail qui va favoriser une dislocation des collectifs de lutte, mais elle est liée aussi à des phénomènes extrêmement troublants d'humiliation des salariés, y compris dans les formes de reconnaissance. Alors, par exemple, vous avez aujourd'hui tout l'appareillage de challenges qui sont proposés aux salariés, avec des phénomènes d'infantilisation extrêmement violentes que subissent de plein fouet les salariés. Alors, je vais prendre un exemple. Par exemple, dans les centres d'appel à EDF, ce qu'on demande aux salariés, c'est de venir déguiser en cow-boy ou bien de venir déguiser en tong avec, pour les meilleures équipes, vous avez la possibilité d'avoir ensuite une distribution de bonbons. Vous avez, en matière de participation dans l'entreprise, vous avez des boîtes à idées dans lesquelles les salariés sont conduits à choisir un petit animal familier qui va être la mascotte, un animal vivant, un chat, souris, etc., lapin, qui va accompagner les salariés dans leur travail. Donc ensuite, vous allez être conduit à amener de la salade. Je pense que ce sont des processus dans lesquels, effectivement, soit vous participez, et auquel cas vous êtes humilié, vous vous sentez indigne, soit vous ne participez pas, et auquel cas vous êtes exclu. Mais cette infantilisation, vous voyez bien que ce processus d'infantilisation, et je vous donnerai un autre exemple qui est effarant. Ce processus d'infantilisation fait que le corps social a bien du mal à se sentir suffisamment digne pour pouvoir ensuite affronter cette dislocation des collectifs et pouvoir avoir une parole qui puisse être entendue et pouvoir simplement se confronter à des décisions qui viendraient de la direction. Alors, le dernier exemple, dans les centrales nucléaires, puisqu'on en parle aujourd'hui,
de façon
extrêmement tragique, mais dans les centrales nucléaires, la désorganisation du travail a été rapportée par les salariés que j'ai interviewés, qui suscite en fait, des inquiétudes et cette souffrance. Parce qu'ils ont le sentiment de ne pas arriver à bien faire leur travail. La réponse de la direction, parmi les réponses des directions. Mais enfin, bon, comme c'est affiché à l'entrée de la centrale, c'est vrai que c'est, bon, elle est extrêmement visible. C'est de proposer aux salariés stressés des séances de massage.
Évidemment, c'est assez surprenant.
Un autre exemple, je veux le dire parce que je pense, par exemple, à l'ouvrage de Stéphane Hessel qui parle justement de la fierté et de la dignité. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est jamais acquis. Et on doit lutter pour cette dignité et combattre finalement tous les processus qui la fragilisent à l'intérieur même du travail. Je prends un autre exemple récent. Salle de repos. Une salle de repos pour les salariés, salle de repos qui est bien évidemment absolument impeccable, vide, mais magnifique, qui ressemblerait à... C'est-à-dire que quand vous rentrez dans cette salle de repos, vous vous dites, vous attendez à avoir une geisha. Et à la porte, vous avez indiqué défense de jouer.
Oui, effectivement, c'est extrêmement contradictoire.
Extrêmement violent.
Je comprends mieux en filigrane vos explications. Et les grandes difficultés et les manifestations extrêmes de détresse qui se sont manifestées ici ou là. On ne va pas citer de noms, mais chacun comprend. Voilà donc le constat. Le pouvoir économique s'est accaparé au fil des années une partie de la sphère qui relève de l'État-nation, qui est censée représenter le peuple. Le risque, dites-vous, et c'est un point très important de votre développement, c'est qu'en retour, il pourrait y avoir une montée du concept de l'État fort qui ne serait pas une simple rhétorique, mais qui pourrait se traduire par des effets, je dirais, extrêmes, inverses. Autrement dit, pour justifier, mais vous allez le dire mieux que moi, pour justifier cette reprise de pouvoir, on pourrait aller jusqu'à une forme d'autoritarisme qui vienne à se substituer à la régulation sociale, en risquant, dites-vous, je vous cite, de contraindre les citoyens à troquer leur liberté pour plus de sécurité. Alors voilà, donc c'est ça que vous dénoncez, et on voit aussi à travers vos remarques l'illustration qu'on peut trouver dans l'actualité politique notamment.
Le problème de cette mise sous silence, cette chape de plomb qu'on repère dans les entreprises, risque de se métamorphoser en violence. Alors cette violence, on la constate à travers la violence qu'on retourne contre soi-même. C'est le paroxysme, ce sont les suicides. La violence qu'on retourne contre les autres, avec des phénomènes extrêmement graves, même s'ils sont effectivement limités. Hein, mais bon, tout le monde n'arrive pas avec un fusil dans son entreprise, mais ce sont des récits que les salariés peuvent faire. Et violence qu'on retourne aussi, là je le dis très clairement, je n'ai pas d'éléments pour mesurer l'ampleur du phénomène, mais on parle quand même de sabotage. Donc on voit bien qu'il y a phénomène aussi d'affaiblissement de l'éthique au travail. Donc on a le sentiment qu'il y a une dérégulation du corps social, dans lequel le corps social ne peut plus puiser en lui-même des capacités de s'autoréguler et de se préserver contre la dissolution. Du coup, le risque, et c'est ce que disait Polanyi après la montée du fascisme, il a expliqué le fascisme à travers ce phénomène de dérégulation. Le problème, c'est que le corps social, désespéré et fragilisé, peut vouloir rechercher dans des instances surplombantes, que ce soit par exemple l'État fort, des instances lui permettant de se contrôler, quoi, au fond de se contrôler, et donc de risquer de troquer sa liberté contre sa sécurité. Ce qui finalement renforcerait le problème de ces tensions entre société de marché et démocratie.
Je crois qu'à travers tout ce que vous venez d'expliquer, nos auditeurs auront compris que vous n'êtes absolument pas dans une logique de désespoir, de désespérance, et que bien au contraire, vous voyez des pistes qui peuvent s'ouvrir pour permettre une meilleure articulation entre puissance publique et puissance sociale. C'est cette voie qui vous paraît salutaire. Des questions essentielles que vous abordez sans tabou, et on l'a vu, en vous appuyant non seulement sur une analyse théorique, mais sur des études empiriques, particulièrement pertinentes. Un mot peut-être pour conclure sur ce sujet, avant d'inviter nos auditeurs à se procurer ce merveilleux ouvrage, Les nouveaux empires, fin de la démocratie, point d'interrogation, je le reprécise. CNRS édition, 164 pages, 19 euros. Que diriez-vous pour conclure cet entretien ?
Alors, je pense qu'on a abordé plus les questions qui sont traitées dans la première partie du livre.
Absolument.
Les autres, d'où peut-être, je ne suis pas convaincue que les auditeurs aient le sentiment d'un grand optimisme. Mais toute la partie, la seconde partie du livre, elle porte justement sur des solutions. Et notamment, l'idée, c'est de dire qu'au fond, aujourd'hui, la régulation de l'économie ne va pas suffire, qu'il faut penser en termes de régulation sociale et que de la place de la société civile, fort heureusement, il y a d'autres pistes, d'autres innovations sociales extrêmement intéressantes, extrêmement riches et qui peuvent tout à fait nous susciter de l'espoir et un retour, j'espère, un espoir de dignité.
Bien écoutez, c'est sur ce mot d'espoir, de dignité, que nous allons conclure cet entretien. Je rappelle votre ouvrage, Les Nouveaux Empires, fin de la démocratie. Certainement pas, dites-vous. Merci à vous, Anne Salmon.
Merci beaucoup.